D'où venez-vous?
Friedrichshafen, Lac de Constance.
Ah, oui. Et vous faites comme ça les festivals? Vous avez un très bel orgue de Barbarie. D'où est-ce qu'il vient?
Lac de Constance, Überlingen.
Ah, d'accord.
Oui.
Il était fait là-bas.
Cette fabrique fait toujours, toujours.
Encore maintenant.
Pour Français, pour Suisse, pour Allemand, grande fabrication.
Ah, voilà. Oui. Et vous aimez bien faire tourner l'orgue, hein?
Oui, mon mari, plus.
Et vous vous arrêtez pour distribuer des bonbons aux enfants, vous?
Jamais fatigué, jamais soif.
Merci.
Le petit orgue de Barbarie, jamais soif, jamais fatigué, nous a dit cette dame de Friedrichshafen. C'est sur ces mots et sur cette dernière petite musique que nous quittons le premier festival des orgues de Barbarie à Carouge. C'était, nous vous le rappelons, par un beau dimanche du mois de mai 1986. Mais avant de quitter les lieux, nous avons pris l'adresse de Jean-Paul Herman, facteur d'orgue et constructeur d'orgue de Barbarie à ses heures de loisirs. Nous sommes allés lui rendre visite pour notre plaisir et j'en suis sûre pour le vôtre. Nous l'avons trouvé dans son atelier, au rez-de-chaussée d'un grand building, dans l'une des cités nouvelles autour de Genève. Face à l'échangeur d'un autoroute, il suffit de passer la porte, de soigneusement la refermer derrière soi, et nous voilà dans le monde de Jean-Paul Herman. Un cheval de bois à la pose fougueuse s'est arrêté au milieu de l'atelier. Des boîtes anciennes, des nouvelles contenant des orgues sont là. Des piles de papier perforé, la musique, et bien sûr un établi, des outils pour créer et restaurer tout ça.
De ma profession, je suis facteur d'orgue. J'ai appris le métier de facteur d'orgue dans une entreprise. Et j'ai commencé à me passionner pour les orgues de Barbarie dans les années 70, vers 75-76. À l'époque, mon fils n'avait que 2 ans. Il aimait bien aller sur les manèges. C'est comme ça que j'ai rencontré M. Gaillou, que tout le monde connaît à Genève. C'est un forain qui possède des orgues de Barbarie. Alors avec lui, j'ai commencé à réparer les siens, puis à les entretenir. Puis lui-même m'a poussé à faire un orgue neuf. Alors c'est comme ça que j'ai commencé. Puis lui en a voulu un. J'en ai fait un, il l'a revendu. J'en ai refait, puis c'est comme ça que je me suis fait connaître à construire des orgues neufs. Et c'était toujours uniquement par passion, c'était pas à plein temps. Je travaille toujours dans les orgues d'église. Ouais, c'est un peu difficile. Les premiers que j'ai commencé à faire, j'ai copié des orgues, si vous voulez, un modèle hollandais que j'avais sous la main, j'ai copié. Puis après, comme ça s'est bien développé, je me suis dit, je vais concevoir un modèle moi-même. Ces maisons, les dernières ont terminé, c'est la maison Poirot, je crois, à Mirecourt, une des dernières qui s'est arrêtée dans les années 50, par là. Bon, mais on retrouve encore des constructeurs en Belgique, par exemple, de Cap, parce que ça a toujours existé en Belgique, il y a les salles de danse. Et dans ces salles, il y avait un orgue qui faisait danser les gens à la place de l'orchestre. Alors ça existe. Et puis maintenant, il y a des maisons qui se sont rouvertes, quoi, même des manufactures d'orgues d'église qui se sont mis à faire des orgues de barbarie.
Est-ce qu'il y a un lien, je doute bien d'ailleurs, entre donc, votre profession et puis votre hobby de faire des orgues de barbarie ?
Ah oui, il y a un lien très proche même, parce qu'un tuyau, c'est un tuyau, quoi. C'est un tuyau d'orgue, soit de barbarie ou d'orgue d'église. Bon, il est harmonisé différemment, parce qu'un est fait pour jouer dans la rue, et l'autre dans une église, et puis dans la rue, il y a moins de tuyaux, les orgues sont moins grands, parce qu'on doit les transporter, on doit les déplacer, tandis que l'orgue d'église, les tuyaux sont plus grands, ils sont fixes, et il y en a beaucoup plus. Il y a des tuyaux en étain dans les églises, qui est un matériel assez lourd, tandis que dans la rue, il n'y a pas de tuyau en étain, parce que tous les tuyaux sont en bois. Mais là, le tuyau est pratiquement fait de la même façon, d'un côté comme de l'autre.
Et puis, vous pouvez donner juste quelques détails, comment fonctionnent ces orgues. Donc, vous avez des tuyaux de bois, ce que j'avais remarqué dans ces boîtes. Et puis, pour le reste, comment ça fonctionne?
Alors, vous avez une pompe comme un soufflet de forge qui vous donne l'air, qui vous amène l'air dans un réservoir, qui stabilise la pression. Parce qu'autrement, si on n'avait pas ce stabilisateur, on aurait des à-coups, les à-coups qu'on a avec un soufflet. Ouais. Une fois il souffle, après il souffle plus. Alors le réservoir stabilise, et puis après, l'air va dans un distributeur qui répartit l'air à chaque tuyau, suivant la commande qu'on lui donne. Comme un orgue d'église, on commande manuellement chaque touche. Là, c'est chaque trou dans le carton qui commande ce distributeur en fonction de la note qu'on veut avoir. Alors on a une gamme, bon, on a pas les 56 notes d'un clavier, on a une gamme réduite, si vous voulez. On utilise le minimum de notes pour faire le maximum de musique, toujours en fonction du poids qu'on va avoir. Ouais. Sinon, on a un orgue trop lourd et on utilise les tuyaux qu'on doit utiliser une ou deux fois à l'occasion, on les supprime. Et on fait les arrangements en fonction des tuyaux que nous avons dans l'orgue.
Ça m'amène à vous poser des questions sur les arrangements, justement, la musique. Alors, comment est-ce qu'elle se crée ?
Alors là, je ne suis pas musicien, je suis assez mal placé pour vous en parler. Mais j'ai des amis qui ont recommencé à faire des cartons comme moi j'ai commencé à faire des orgues, et puis eux ils ont des connaissances plus profondes en musique. Si j'ai commencé à m'intéresser aux orgues de barbarie, c'est que je ne connaissais pas la musique, alors je voulais jouer de la musique moi-même.
Ce qui était donc une façon d'être un interprète.
Ouais.
En faisant tourner l'orgue de barbarie.
Ouais.
Et puis ensuite, on pourrait un tout petit peu parler de l'emballage, parce que j'ai vu qu'il y avait de jolies pièces à ce festival. Ouais. Vous en faites vous-même ?
Oui, j'ai commencé à faire aussi de l'ébénisterie. D'abord, j'ai fait des caisses non décorées, ou bien je les faisais peindre, des caisses en bois blanc, puis où les gens les peignaient eux-mêmes, ou bien je les faisais peindre. Puis après, il y a eu une demande pour dans les appartements. Alors, on voulait un bois beaucoup plus noble, alors commencé à faire des caisses moi-même en noyer ou en acajou avec de la marqueterie. Bon, la marqueterie, je la fais faire parce qu'il faut la faire en série aussi pour que ce soit rentable. C'est comme aujourd'hui, les orgues, on est obligé de les faire en série pour que ce soit rentable parce qu'on ne peut plus, on a un atelier, on a de l'outillage, tout ça à amortir. Alors on ne peut plus faire pièce par pièce comme à une certaine époque. De temps en temps, je fais un modèle pour moi, pour mon plaisir, un modèle unique. Alors je joue un an ou deux avec et puis je le pense.
Mais c'est donc un peu un artisanat qui se relance, hein ?
Ah, oui.
L'orgue de barbarie.
Oui, ça se relance. Bon, c'est parti du fait que il y a eu des zones piétonnes. Et dans ces zones piétonnes, on a commencé à les animer avec des chanteurs. Et puis les chanteurs sont accompagnés. Il y avait des marionnettistes, des illusionnistes, en fin de compte, des cracheurs de feu. Et en fin de compte, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de courant, rien. Et puis ils ont repris l'orgue de Barbarie pour animer. Et puis ça va très bien dans le cadre. C'est comme ça que je pense que l'orgue est revenu à la mode, dans les rues en tout cas.
On parlait de l'orgue du mendiant.
Oui, bon, en Tchécoslovaquie, bon, c'était un orgue un peu particulier. C'était un orgue à hanches, système genre accordéon. C'était plutôt pour imiter l'accordéon que l'orgue. Et les airs, d'ailleurs, tchèques, si on rencontre ces orgues très originaux, ils ont des airs très nostalgiques qui font partie du folklore tchèque. Mais c'est très beau comme instrument. Et puis les origines, je ne sais pas tellement. Je pense de la même façon que l'orgue de Barbarie est parti dans le reste de l'orgue.
Et alors, quand vous dites de la même façon dans le reste de l'Europe, au fond, elles viennent de où, les orgues de Barbarie? Vous pouvez nous en dire deux mots?
Oh, ça peut remonter à loin, parce que les premiers instruments mécaniques, bon, on part de la... Si on veut, on part de la flûte. Alors, on a fait des pendules à flûte. Ça remonte vers 1600 et quelques. Après, on a fait un petit instrument, la serinette, pour apprendre à siffler au serin. Vers 1730, par là. Puis alors, cet instrument, on l'a agrandi pour dans l'appartement, puis on en a sorti des airs un peu plus conséquents. Et après, on en a fait un orgue d'appartement avec une trentaine de touches. Ouais, c'était toujours c'était des orgues qui étaient dans des salons, vraiment un peu chic, bourgeois, quoi. Et alors après, vers 1820-1830, il y a eu les orgues de Barbarie. Ils ont fait un orgue beaucoup plus puissant, si vous voulez, qui joue dans la rue.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la serinette pour apprendre à chanter au serin. Est-ce qu'il y a eu une époque en Europe où on a fait des concours de chants d'oiseaux?
Ça, je ne m'en souviens pas. Non, je n'ai pas connaissance. Alors, on apprenait à siffler aux oiseaux pour le propre plaisir. Et toutes les serinettes ont été fabriquées dans les Vosges, à Mirecourt. C'est un peu... parallèle à la forêt noire. En forêt noire, on fabriquait les pendules à flûte, les célèbres forêts noires. Alors c'était une pendule d'où fonctionnait un jeu de flûte. Et en face, en France, dans les Vosges, on avait les fabriques de serinettes et d'orgues de salon. Alors là, je vais vous faire écouter une serinette, un morceau, ça s'appelle la petite chasse, qu'on retrouve presque sur toutes les serinettes. On entend tous les bruits de bois, les clapets qui se ferment. C'est qu'elle est très ancienne. Ouais. Elle date de 1870 à peu près, 1850-70. Il y en a une. Ouais, c'est une serinette neuve que j'ai faite il y a quelques années. J'en avais fait 20. Et puis tout est neuf. Elle s'est construite de la même façon que les anciennes, avec presque les mêmes bois, exactement de la même façon. Alors, je vais vous faire jouer un morceau.
C'est vraiment très joli. Hein.
Il y a le bruit de la peau, là, je ne sais pas si ça gêne, vous croyez?
Mais on entend la serinette telle qu'elle donne, ouais. Ça ne gêne pas.
Le cylindre est entièrement neuf, tout est neuf. Il y a 800 clous dans ce cylindre qu'il faut planter à la bonne place. Vous avez 8 morceaux sur le cylindre. Ça représente à peu près 800 clous.
Et alors, ça c'est vous qui l'avez fait? C'est quand même vous qui avez eu l'oreille pour...
Oh, c'est pas difficile, une fois qu'on a les notes, il y a 10 notes. Alors il faut les utiliser. Et c'est des morceaux que j'ai copiés un peu sur d'anciennes serinettes, les plus beaux morceaux que j'ai trouvés.
Et alors comment est-ce que cet instrument est sorti des salons pour devenir un instrument populaire dans la rue ?
Je sais pas, on dit que c'est un dénommé... Bon, il y a plusieurs légendes là-dessus. On dit que c'est un dénommé Barbieri qui a inventé l'orgue de Barbarie pour jouer dans la rue. On ne sait pas exactement comment. Il y a une autre anecdote où c'est un Anglais, je crois, qui jouait du violon. Et puis un ami lui a dit, bon, je vais te faire un orgue. Mais on ne sait pas exactement comment ça se fait, puis comment c'est venu.
Mais ça s'est plutôt répandu à quelle époque, alors, l'orgue dans la rue ?
Au 19e siècle, vers le milieu et la fin du 19e siècle, jusque dans les années 20, quoi, une fois que le phonographe a détrôné l'orgue de Barbarie, quoi.
Dans votre atelier, je vois que vous avez un magnifique cheval de bois pour manège. Qu'est-ce qu'il fait chez vous, ce beau cheval ?
C'est un client, en fin de compte, qui voulait un orgue de Barbarie et puis il avait quelques vieilleries, alors j'ai fait la change. C'est toujours intéressant. Les orgues neufs, je peux les faire un peu comme je veux, mais les pièces anciennes, c'est un peu difficile à récupérer. Ouais, de la même façon, j'ai récupéré cet orgue ancien qui doit dater du 19e, milieu du 19e siècle, qui n'est pas encore restauré. Ouais. C'est vraiment une épave, il faudra le restaurer quand j'aurai le temps.
Et alors, à côté de ça, vous m'avez dit que vous continuez donc votre métier qui est plutôt restaurateur d'orgues d'église.
Oui, constructeur, aussi bien constructeur que restaurateur, qu'accordeur, qu'harmoniste dans les orgues d'église. Hein. Et je fais l'entretien pour une entreprise. Ouais.
Vous connaissez un petit peu les orgues de la région, alors, celles de Genève notamment ?
Oui, il y en a quand même quelques-uns à Genève. Il y a beaucoup, même beaucoup d'orgues à Genève que je connais. J'ai connu le Victoria.
Vous avez fait des travaux qui vous ont un petit peu marqué, des bêtes.
Tiens, alors c'est moins motivant que de faire un orgue neuf. Des belles orgues, j'ai travaillé sur de belles orgues plutôt dans ma jeunesse, alors quand j'étais apprenti, parce que j'ai appris mon métier en France, alors là il y avait d'immenses églises et d'immenses orgues, alors c'est tout à fait différent des petits temples qu'il y a en Suisse ou à Genève.
Quand vous dites que vous n'êtes pas musicien, mais j'imagine qu'il faut avoir une fameuse oreille pour accorder les orgues.
Oui, l'oreille on peut se la former. Mais pour être musicien, il faut apprendre le solfège. C'est un peu plus difficile. Bon, c'est pas plus difficile, mais il faut vouloir. Tandis que l'oreille, bon, si on n'est pas dur d'oreille, on peut s'informer, accorder, puis harmoniser.
Et puis, c'est quand même un métier assez original. On peut vous demander un petit peu comment vous y êtes arrivé ?
J'avais un oncle qui avait une entreprise, une manufacture d'orgue. Alors, je suis arrivé à 15 ans, je ne savais pas quoi faire. Puis, il m'a pris à l'essai. Puis j'y suis resté. Et ça fait déjà 29 ans.
Un essai qui a bien marché.
Ouais.
Est-ce que vous avez des orgues ici ?
Oui, j'ai quelques orgues de Barbarie. Ils ne sont même pas terminés. Il y en a qui jouent. Il y en a un là qui doit partir pour l'Australie. Ouais. Celui-là est terminé. Ouais.
Une commande australienne.
Ouais. C'est une dame qui se promenait en Europe, je crois, et puis elle est passée à Genève, comme ça, puis elle a vu... Elle a vu de mes orgues de Barbarie, puis c'est comme ça.
Alors, est-ce qu'avant qu'elle parte en Australie, vous pourriez nous la faire tourner ?
Thank you.
Alors là, je vois qu'il y a un petit article de journal. Vous avez donc vendu une de vos orgues à ce monsieur Guiberto.
Oui.
Ça se passe en France.
Ça se passe en France, c'est dans les Vosges. Lui, il habite dans les Vosges, plein fin. Oui, il y en a beaucoup, il y en a qui partent un peu partout. Et les gens, ils viennent et puis ils partent souvent de fois, je ne sais pas exactement, souvent de fois. On m'envoie une photo après ou bien un article de journal. Mais je ne sais pas, souvent pas, je ne sais pas toujours où ils vont.
Eh bien alors là, vous allez le savoir, ça c'est l'Australie.
Ouais.
Et vous avez eu d'autres commandes comme ça, lointaines ?
Non, pas tellement. Bon, il y en a autrement à part, ça reste toujours en Europe. Bon, il y a des orgues qui ont voyagé, je sais qu'il y a eu des tournées avec mes orgues au Japon. À une époque, il y en avait même trois en même temps au Japon. Un avec un clown, un avec une exposition, un musée, qui faisait une exposition là-bas, et puis l'autre, je crois, avec des chanteurs. Il y en a eu aussi à Tahiti qui ont fait des tournées, ouais, il y en a un peu partout. Au Canada, j'ai des Canadiens.
Et qui sont venus vous acheter des orgues ?
Ouais, un couple canadien.
Eh ben, c'est bien sympathique, ça. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de la tournée au Japon ? Est-ce que ça a plu aux Japonais ?
Non, je ne sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. Je pense que ça leur a plu, quoi, comme tout leur plaît. Alors, je ne sais pas s'ils ont essayé d'en refaire, mais...
Ah oui, les bons copieurs qu'ils sont, talentueux.
Alors, il y a plusieurs systèmes. Bon, la base du système, c'est le cylindre à clous, à picot, si on veut. Ça, c'était l'orgue d'origine. Mais dans les années, je crois, à la fin du siècle passé, c'est un dénommé Jacquard qui a inventé le carton perforé. Si vous voulez, l'ancêtre de l'ordinateur, la bande magnétique. Alors, le carton perforé a été inventé sur les métiers à tisser jacquard pour reproduire les dessins sur les tapisseries. Et alors après on les a utilisés, c'est pas bon, pas les mêmes cartons, même le même système sur les orgues de Barbarie pour reproduire la musique. Alors vous aviez ce carton qui passe, qui remplace le système du cylindre à clous, parce que le cylindre à clous, vous avez sur un cylindre qui est assez volumineux, vous avez 6, 8 ou 10 morceaux, tandis qu'après avec le carton perforé, vous pouvez l'empiler à l'infini, quoi. Alors vous pouvez avoir un répertoire énorme dans une valise que vous promenez. Et alors maintenant, point de vue répertoire, on fait un peu de tout, quoi. On essaye justement, l'orgue que j'ai fait, il a 27 notes, mais avec cette gamme, on peut avoir des morceaux modernes, on peut avoir un peu de tout, ouais, du jazz.
Alors qu'est-ce que vous allez nous tourner là ?
La 15e sonate de Mozart.
Voilà, chers auditeurs de Radio Zone, c'est sur cette sonate de Mozart que nous vous disons au revoir et nous vous rappelons que cette émission de La Voix des Vétérans est repassée sur Radio Zone 93,8 MHz le jeudi après-midi de 14h à 15h. Nous espérons que vous avez passé une bonne heure en notre compagnie et nous vous disons à bientôt. Dans quelques instants, la suite de notre programme. En attendant, nous écoutons encore quelques mesures tournées sur l'orgue de Monsieur Herman. Thank you.
tout, 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 tout,